Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Victoire de la Tunisie, 1-0 face à la France lors du mondial de football au Qatar. Les Bleus terminent tout de même en tête du groupe D. Un mondial qui a réservé de nombreuses surprises, comme le soulignera Franco Rocotti, directeur d'Africa Top Sport au Togo. C'était hier soir au Sénat, une conférence de soutien aux Iraniens qui manifestent leur révolte contre le gouvernement. Conférence organisée à l'initiative de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat et candidat à la présidence des Républicains. Il sera l'un de nos invités. Un attentat s'est produit dans une école coranique en Afghanistan. Au moins 16 personnes ont été tuées, 24 blessées. L'ancien président chinois, Jiang Zemin, est mort. Il était âgé de 96 ans. Il a présidé son pays de 1993 à 2003 dans une ère de profond bouleversement. Emmanuel Macron a entamé ce mercredi une visite d'État de 3 jours aux États-Unis, la première sous l'ère de Joe Biden. Le gouvernement français valide l'encadrement des loyers à Marseille. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, a donné son feu vert. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Bassem Assé, premier adjoint de la maire de Nantes. Il affirme croire à la volonté politique pour changer la vie des habitants. Extrait dans votre édition. La Tunisie l'a fait, les Aigles de Carthage ont battu l'équipe de France 1-0 lors du mondial de football au Qatar. Cela après un but refusé à Antoine Griezmann à la dernière seconde. Les Bleus étaient déjà avant cette rencontre qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce mondial qui réserve de nombreuses surprises, comme le souligne Franck Orokoti, directeur d'Africa Top Sport au Togo.
Il faut d'abord noter que l'Europe n'est plus le centre du football, parce que lorsqu'on parle du Coupe du monde, généralement, l'Europe domine pratiquement le tournoi, surtout le premier tour. Mais aujourd'hui, on peut constater que les petits poussés, les pays qui n'ont pas comme culture le football, arrivent quand même à dominer les grands pays comme l'Argentine, par exemple. On a vu l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine de Lionel Messi. On a vu également le Maroc qui domine justement la Belgique. Donc aujourd'hui, on peut dire que avec le travail des autres pays, avec justement la formation au niveau des joueurs, au niveau des staffs techniques, les autres pays également arrivent donc à dompter justement les grands pays dits de football.
C'est lié à la formation, dites-vous, qui a évolué?
Oui, c'est lié à la formation. Il faut dire que depuis un moment, il y a un déplacement des Européens, on peut dire des techniciens européens qui arrivent dans les pays, soit africains, dans les pays du Moyen-Orient, qui forment également les techniciens là, qui viennent également avec les machines et tout ça, les équipements sportifs. Donc ce qui fait qu'avec les centres de formation qui pullulent partout dans ces pays, on arrive à former les joueurs. Et aussi, il faut noter que le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite par exemple, qui met beaucoup de moyens en termes de football, au niveau de leur championnat, et multiplie les compétitions, donc les tournois et autres. Ce qui fait qu'il y a un nivellement aujourd'hui par rapport donc à ces pays, aux pays européens. Donc même les pays qui sont réputés pays de football, le Brésil par exemple, même si le Brésil tient jusque-là son rang, l'Argentine a été dominée par l'Arabie Saoudite. On a vu comment les joueurs de l'Arabie Saoudite se sont donnés justement. On sent qu'il y a une condition physique qui est là. On sent qu'il y a une volonté au niveau des joueurs. Donc aujourd'hui, avec l'apport des techniciens européens qui transfusent vers ces pays, il faut dire qu'il y a un travail qui se fait, qui fait qu'il y a un nivellement de football partout.
On l'entend, c'est une évolution historique que vous soulignez.
Oui, c'est très important. C'est très important et on ne doit pas être surpris lorsque, par exemple, l'Afrique arrive à gagner la Coupe du Monde ou soit les pays du Moyen-Orient arrivent à gagner la Coupe du Monde. On ne doit pas être surpris dans la mesure où un travail se fait. On a vu, lorsque l'Arabie Saoudite a gagné, par exemple, cette victoire a créé de l'émulation, justement, de l'humiliation. Ça a créé beaucoup de choses dans le pays. Et le jour suivant, il y a le roi qui a férié ce jour, je crois que ça a donné beaucoup de bonheur, ce qui fait qu'il y aura dans les jours à venir un certain nivellement, on ne va plus avoir peur, par exemple, de l'Argentine, on ne va plus avoir peur de la France, de l'Allemagne et tout ça, même si aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que l'Allemagne n'a pas été inquiétée lors du mondial, la dernière fois c'était en 2018, c'est vrai, mais l'Allemagne n'a jamais été inquiétée lors d'un mondial, par exemple. Donc aujourd'hui, il faut compter avec tout le monde, il faut compter avec les Africains. Vous voyez, par exemple, les Japonais, ils font beaucoup de choses. Les Coréens également font beaucoup de choses, même si le Ghana a battu cette formation coréenne.
Vous aviez constaté cette évolution lors des précédentes compétitions internationales de football ?
Pas tellement. Comme ce que nous voyons actuellement donc, au Qatar, cette Coupe du Monde montre clairement qu'il y a des pays qui émergent donc, en football. Donc, dans 4 ans, justement, la Coupe du Monde qui va venir, ça sera une grande surprise de voir un pays émergent, peut-être sur le podium.
Et est-ce que cela concerne d'autres sports que le football ?
Oui, bon, on sait que le football, c'est le sport roi, c'est le sport qui est bien suivi, mais au niveau des autres disciplines, c'est très compliqué pour le moins pour ces pays, parce que le handball, par exemple, on n'en trouve pas, le basketball est toujours dominé par l'Amérique, les États-Unis et tout. Donc au niveau des autres disciplines, ce n'est pas encore ça, mais je crois que puisque le football va très vite, donc partout dans le monde, il y a un travail qui se fait, ce qui fait que, d'ailleurs au niveau du football par exemple, il y a toutes les familles hein, veulent que leurs enfants deviennent par exemple Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ce qui fait que et si un enfant s'adonne à cette discipline, ils ne sont pas contre. Par rapport donc aux autres disciplines, je crois qu'aujourd'hui, le football prend de l'ampleur au niveau de ces pays et par rapport également à d'autres disciplines. Mais je crois que si le football, les pays arrivent donc à avoir un même niveau que les autres pays dits de football, donc je crois qu'au niveau des autres disciplines également, ça va venir.
Et cette évolution, elle a un impact sociétal dans ces pays ?
Oui, parce que moi, par exemple, si je regarde sur les réseaux sociaux, je trouve déjà le don que le prince de l'Arabie Saoudite a fait aux joueurs individuellement. Je crois que c'est une grande chose déjà sur le plan social. Également des autres pays, quand on voit un peu les prix monter. Et aussi au niveau des autres entraîneurs. Les entraîneurs africains, par exemple, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu un entraîneur africain qui gagne, par exemple, 100 000 euros, par exemple, ça fait très longtemps, mais cette fois-ci, on arrive quand même à augmenter le salaire des entraîneurs. Je crois que sur ce plan également, il y a beaucoup d'évolution et que ça va réjaillir sur les autres domaines.
Franck Rocotti, directeur d'Africa Top Sport au Togo. Parmi les rencontres ce jeudi, Canada-Maroc à 16h. 4 matchs de la phase de poule de la Coupe du Monde se disputaient ce mardi dans le groupe A. Les Pays-Bas se sont imposés face au Qatar sur le score de 2-0. Le Sénégal est sorti vainqueur de son duel face à l'Équateur de 2-1. L'Angleterre a dominé les pays de Galles 3-0. Les États-Unis ont battu l'Iran 1-0 pour rejoindre les huitièmes de finale et affronter les Pays-Bas. L'attentat s'est produit dans une école coranique en Afghanistan. Au moins 16 personnes ont été tuées, 24 blessées. C'est arrivé dans le nord du pays. Des dizaines d'explosions et d'attaques visant des civils ont eu lieu depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. La plupart a été revendiquée par la section locale du groupe État islamique. Une conférence de soutien aux Iraniens qui se révoltent contre leur gouvernement a été organisée hier soir au Sénat. L'initiative de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat et candidat à la présidence des Républicains. Une résolution appelant à un renforcement des sanctions contre le régime iranien sera voté prochainement par le Sénat. Un régime qui doit être mis à terre le plus vite possible, affirme Bruno Retailleau au micro de Radio Orient.
Alors cette manifestation, nous l'avons organisée dans un double objectif. C'est d'abord un message et un hommage. Un hommage au courage du peuple iranien, à ses femmes qui luttent contre un régime oppressif pour leur liberté. Et puis l'autre objectif, c'est de leur dire qu'ils ne luttent pas seuls, que nous sommes à leur côté et qu'avec nos armes, les armes d'une démocratie, les armes que nous pouvons utiliser au sein de la communauté internationale, nous allons être utiles dans leur combat. Et précisément, nous voulons, nous adresserons dans quelques dans quelques jours un projet de résolution que je souhaite soumettre à mes collègues au Sénat, dans l'hémicycle, pour durcir un certain nombre de sanctions sur le gel des avoirs des individus qui sont impliqués dans la répression, faire en sorte qu'ils ne puissent pas circuler librement, faire en sorte qu'on puisse prohiber l'exportation de technologies, d'armes qui peuvent servir actuellement à la répression du peuple iranien. Bien sûr, nous encouragerons aussi toutes les sanctions qui sont décidées soit dans le cadre européen ou soit dans le cadre de l'ONU. On trouve absolument aberrant que la République islamique d'Iran fasse toujours partie l'organe de l'ONU qui s'occupe du droit des femmes. C'est une aberration. Donc nous sommes là en alerte aux côtés des Iraniennes, aux côtés du peuple iranien. Nous les soutenons de notre mieux que nous pouvons.
Vous saluez la rencontre entre Emmanuel Macron et des opposantes iraniennes, un geste totalement inédit?
Mais bien sûr, je pense qu'aucun geste n'est inutile. Ces gestes-là peuvent apparaître vis-à-vis de la gravité de la répression, vis-à-vis de ces centaines de morts, comme des gestes finalement dérisoires. Mais rien n'est jamais dérisoire. Il faut que le peuple iranien sache que par-delà toute la planète, par-delà le monde, et particulièrement en France qui est la patrie des droits de l'homme, eh bien nous nous levons, nous sommes à leur côté et nous voulons les encourager dans un combat difficile.
Vous avez été sensible notamment à la condition des enfants en Iran qui sont victimes aussi de la répression.
C'est terrible. J'ai ici la liste de ces enfants avec leurs photos, leurs noms, leur état civil. Et qu'un régime puisse tuer froidement des enfants dans la rue montre que ce régime doit être mis à terre le plus vite possible.
Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, candidat à la présidence des Républicains, il répondait à Loïc Barrière. L'ancien président chinois Jiang Zemin est mort. Il était âgé de 96 ans. Il a présidé son pays de 1993 à 2003 dans une ère de profond bouleversement. Il était devenu secrétaire général du Parti communiste après la répression des manifestations de la place Tiananmen de Pékin. Lorsqu'il a quitté ses fonctions de président, la Chine était devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce et était en passe de devenir une superpuissance. Emmanuel Macron a entamé ce mercredi une visite d'État de 3 jours aux États-Unis, la première sous l'ère de Joe Biden. Les discussions stratégiques entre les deux hommes devraient tourner autour de la guerre en Ukraine et le protectionnisme commercial des États-Unis. L'ouverture ce mercredi du procès des attentats de 2016 à Bruxelles. 10 hommes sont jugés dans ce procès hors norme. Ils sont accusés d'avoir participé à ces attaques terroristes le 22 mars 2016, attentats qui avaient fait 32 morts et des centaines de blessés. 2 hommes s'étaient fait exploser dans le hall de départ de l'aéroport Zaventem, 1/3 dans une station de métro. Le gouvernement français valide l'encadrement des loyers à Marseille. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, a donné son feu vert. Les loyers sont déjà encadrés à Paris et dans 18 communes de Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à Lille, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Villeurbanne. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Bassem Assé, premier adjoint de la maire de Nantes. Il est en charge du dialogue citoyen, du monde économique, de l'emploi, de la politique de la ville et de la proximité. Né au Liban, il affirme croire en la volonté politique pour changer la vie des habitants, extrait de cette émission.
Alors c'est probablement aussi lié au fait que d'avoir grandi dans un pays où l'État est quasi inexistant, le Liban, c'est aussi probablement lié au fait que je connais quelques autres pays où l'État est un peu moins présent dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie culturelle, etc. Et donc, pour le coup, j'ai le sentiment que l'une des caractéristiques de la France, c'est que l'État intervient dans un certain nombre de secteurs d'activité. Alors, certains diront qu'il intervient trop, d'autres diront qu'il intervient pas assez. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de ligne de crête sur laquelle on se met qui permet que les choix collectifs que l'on fait soient le fruit d'un vote démocratique. Donc on décide ensemble de, par exemple, d'avoir un filet de sécurité qu'on appelle la sécurité sociale. On décide ensemble d'investir dans des secteurs d'activité comme, par exemple, le TGV ou le nucléaire dans le passé, et demain, peut-être des investissements liés à la transition écologique. Ça, c'est tout ça. Ce sont des choix que l'on fait ensemble collectivement de manière démocratique. Ils sont portés par l'État et de plus en plus le secteur privé, mais quand même, l'impulsion vient de l'État. Et pour le coup, quand je dis que je crois dans le volontarisme politique, eh ben je crois en ça. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est un sentiment qui est fondamentalement démocratique, j'allais dire. Et je crois qu'on a la chance d'avoir ça en France et en Europe quand même, ce qui nous donne quelques avantages par rapport à d'autres régions du monde, le mieux c'est.
Bassem Assé, il y a quelques jours, Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, et Philippe Brun, député de l'Eure, ont publié un texte qui demande à la gauche de se réveiller face à l'extrême droite, qui a, selon eux, préempté des thèmes comme le travail, la nation, la justice, la laïcité. Les deux parlementaires estiment que la défense de la République est confisquée par l'extrême droite. Partagez-vous cette analyse ?
Oui, tout à fait. Je pense que des thèmes comme la nation, par exemple, historiquement, c'est un thème plutôt de gauche. C'est quelque chose qui s'est installé au moment de la Révolution française. Une nation civique, évidemment, c'est-à-dire une nation de citoyens. C'est très différent de la nation ethnique à laquelle se réfère l'extrême droite, où on doit être d'une certaine couleur, issu d'une certaine région, depuis plusieurs générations. C'est pas du tout ça l'idée de la nation au départ en France. L'idée de la nation, c'est la nation des citoyens. Et c'est ce qui fait la caractéristique de notre pays depuis la Révolution française, peut-être même depuis un peu plus tôt. En tout cas, des thèmes comme ceux-là, ils sont importants à une époque où on vit une mondialisation qui fait que les marchandises s'échangent très facilement, les cultures s'échangent. La globalisation, c'est quelque chose qui est un phénomène majeur depuis 30-40 ans. Et l'attachement des Françaises et des Français, et c'est aussi le cas ailleurs dans d'autres pays, mais en tout cas en France, l'attachement à l'idée de nation, eh bien, en fait, il n'est pas nécessairement d'extrême droite. À partir du moment où on considère que lorsqu'on est citoyen, on est membre de cette nation, c'est normal que la gauche réclame et récupère et promeuve cette idée qui date de la Révolution française, je le souligne, la notion de nation, de citoyen, d'une part, et d'autre part, vous avez aussi cité la question de la laïcité, par exemple, c'est complètement aberrant que la laïcité, que l'extrême droite, et même la droite dans une certaine mesure, a combattu historiquement pendant une bonne partie du tournant entre le 19e et le 20e siècle. C'est complètement aberrant que la gauche puisse penser, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais que la gauche puisse penser que ce sujet-là est un sujet d'extrême droite, ça me paraît là aussi complètement aberrant. La laïcité, c'est le fait que les religions ne puissent pas interférer dans la sphère politique, publique, et inversement, le fait que la sphère politique ne puisse pas intervenir dans les religions pour que chacun soit à l'aise dans son domaine et dans son périmètre. Et donc c'est une loi, la laïcité, ce sont des lois qui garantissent la liberté et l'égalité entre les citoyens. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il suffit de regarder les pays qui ne bénéficient pas de ce principe, de voir comment les choses évoluent chez eux par rapport à la façon dont ça évolue chez nous.
Bassem Assé, premier adjoint de la maire de Nantes. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. La baguette de pain française est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française évoque une immense fierté. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Très bonne suite de programme.